de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le personnage essentiel du film, c'est Paris. Un film luxueux réalisé dans une période de grande pénurie et dont le tournage, l'aventure du tournage est déjà en soi une légende, l'est en tout cas devenu. Les Enfants du Paradis et de la vie même de l'un des intervenants de l'émission qui suit, l'un des plus ambitieux dans la carrière de Marcel Carné. Film étonnant, singulier, il n'a jamais quitté les écrans. En salle, à la télévision plus tard, en vidéo, en DVD Blu-ray, etc. Tout le monde l'a vu, et les parents de chacun l'ont vu, et les petits-enfants de chacun le verront. Il n'a pas quitté les écrans, si, sans doute, puisqu'il est régulièrement redécouvert. Et puisque l'on peut, le revoyant, s'attacher soudain à des scènes qui nous avaient moins marquées précédemment, s'étonner de l'importance de tels personnages qui, dans notre souvenir, nous semblaient secondaires. Un film, donc, qui vit dans nos mémoires et notre imaginaire. Bref, Les Enfants du Paradis, à revoir encore et toujours, et à suivre dans les Mardis du cinéma, diffusé pour la première fois sur France Culture le 1er octobre 1985.
Les Mardis du cinéma et le Ranlag vous invitent à assister à la projection donc des Enfants du Paradis et de la Première Époque, pour commencer, bien sûr.
Paris au temps du romantisme, le boulevard du crime, ou si l'on préfère le boulevard Saint-Martin. Les héros de cette époque, Frédéric Lemaître, le Talma des boulevards, De Bureau, le mime qui fut Pierrot comme Chaplin et Charlot, Lassner, assassin littéraire, incarnation de la fatalité, l'imaginaire Garance, échappé comme le comte de Montret, son amant, de splendeur et misère des courtisanes. Enfin le décor quasi mythologique de la vie romantique, le tapis franc, la descente de la courtille, l'hôtel particulier et l'hôtel meublé, le bain turc, les funambules, l'auberge des adrets, tout un décor grouillant qui participe à la convention cinématographique des Misérables, des Mystères de Paris ou du Père Goriot, mais qui est autre chose que la blanche et froide construction qui sert de fond aux visiteurs du soir.
Qu'on juge plutôt, 3h30 de spectacle, 10 ans de vie filmée, la vie d'un quartier d'abord, celui du boulevard du crime avec ses funambules où s'enflamme Théophile Gautier, les commencements fougueux de Frédéric Lemaître, un Paris du bout du monde plein de colombines vagabondes, de calèches indolentes et de confettis, de parades et de gaufres, de claquements de fouet à 4h du matin, de portes entrebâillées sur des douleurs et des morts que le temps passé semble avoir ouatés, de gilets à fronces, de voleurs borgnes et la paix accroupie sur les humeurs à bon marché d'une ville qui dirige seule le désordre de ses éclats de voix et la périodicité de ses maladies de cœur. C'est le matin, un monceau de maisons et de rues s'anime dans la clameur des marchandes de légumes, un peuple passe et repasse devant les étalages, une fête foraine disperse ses cuivres acides dans la poussière, cela sent la graisse à beignets.
Le centre du drame est le grand amour malheureux de Garance et de De Bureau. Les personnages sont vivants, prenants, possédés, mais leurs aventures restent plus passionnantes que passionnées. On ne voit pas jaillir ces flammes éperdues ou sensuelles qui traversent des œuvres aussi diverses que ceux de La Zone, La Fête humaine ou Peter et Betson. Les thèmes importent d'ailleurs plus que l'intrigue de la ville et du théâtre, des personnages créés et des personnages réels, du théâtre et de la pantomime, du cinéma muet et du cinéma parlant, du théâtre et du cinéma, des acteurs et des hommes. En un mot, de l'art et de la vie. Ces thèmes, ces problèmes, ces rapports ne sont pas étudiés dans l'abstrait, mais dans l'action. Ils sont une trame partout présente, mais que tous les yeux n'aperçoivent pas. Leur présence est pourtant ce qui donne à l'œuvre un souffle et une puissance de respiration qui ont été rarement atteints au cinéma. Ce film est l'un des plus importants qui ait été fait dans le monde depuis 10 ans. L'historien le considérera comme une date.
Première partie, cinéma de l'occupation, cinéma de la libération.
Je pense qu'il serait bon de replacer d'abord les Enfants du Paradis dans son contexte historique, politique et économique.
Francis Courtade.
Il a été commencé en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, alors que la France est occupée par les nazis. Ce qui signifie que les restrictions sont partout, et aussi dans le monde du cinéma. Dans le monde du cinéma, ces restrictions concernent d'abord les matières premières, la pellicule sans laquelle le film n'est pas possible est contingentée, et puis elles concernent également tous les ingrédients matériels nécessaires à la fabrication du film. Le décorateur des Enfants du Paradis, ou plus exactement, celui qui, dans la clandestinité à l'époque, car il était israélite, Alexandre Trauner, qui a conçu et dessiné les maquettes des décors, parlait, lui, des problèmes auxquels les Enfants du Paradis avaient eu à faire face. La plupart des choses s'achetaient au marché noir à cette époque, même pour les grandes sociétés, pour trouver des clous, du bois, etc. Si on avait attendu l'acheminement normal qui passait par les bureaux et par les offices, on n'aurait jamais fait le film. Claude Autant-Lara, le réalisateur qui tournait la même année, 1943, Douce, a évoqué lui aussi les difficultés matérielles auxquelles il s'était heurté. On n'avait ni pellicule nécessaire, 21 000 mètres par film, ni possibilité de déplacement ou de transport. Tout se distribuait, bois, fer, étoffe, avec des bonnes matières, pas commodes à obtenir, et avec quelle parcimonie. Je me rappelle le machiniste affecté au clou. Sa seule occupation était de se promener dans tout le studio avec un bout de bois terminé par un aimant. Il ramassait à longueur de journée les clous tordus à terre, et il allait les redresser à coups de marteau pour les faire resservir. Pourtant, dans ses mémoires, La vie à belles dents, Marcel Carnet lui-même avoue avoir eu moins de difficultés qu'il ne le craignait après le tournage des Visiteurs du soir, en ce qui concerne en particulier les costumes. Une heureuse surprise, dit-il, m'était réservée. Alors que je m'attendais à rencontrer des difficultés comparables à celles éprouvées pour les Visiteurs du soir, j'eus la stupeur de constater que, si tout ce qui était satin et velours était quasi introuvable, en revanche, il était relativement aisé de se procurer, pour peu qu'on y mît le prix, des draperies de toutes sortes. Et il ajoute « J'appris que certaines maisons, dites de haute couture, bénéficiaient de la même dérogation que les restaurants de luxe, leur approvisionnement ainsi que leur vente demeuraient libres. » Il y avait aussi, autre problème matériel si j'ose dire, la question de la main-d'œuvre. N'oublions pas que le 17 février 1943 a été institué le service du travail obligatoire en Allemagne, STO, ce qui allait priver les studios aussi d'une partie de la main-d'œuvre habituelle.
Nous étions obligés d'employer un pourcentage minimum de figurants affiliés à un syndicat contrôlé par les Allemands. Nous avions fréquemment des descentes de policiers qui se présentaient au studio et qui contrôlaient toute la figuration. Ainsi, le jour où nous tournions la scène finale, le carnaval, un régisseur vient me trouver et me dit « Deux messieurs demandent un tel, un des figurants. Sa femme vient d'avoir un accident, elle se trouve à l'hôpital et veut le voir. » Un peu intrigué, je le charge de dire que ce figurant n'est pas là. 5 minutes plus tard, le régisseur revient. Les messieurs insistent. Ils se montrent très vivement émus, disent que cette femme a les deux jambes sectionnées, qu'elle n'a plus que quelques heures à vivre et qu'on ne peut lui refuser la joie de voir son mari. J'ai malheureusement cru à cette histoire et j'ai fait appeler le mari. À peine était-il arrivé au bureau de la régie que les deux types l'ont emmené. C'était la Gestapo.
C'est l'historique du film qui est intéressant. Pourquoi on a fait des films à cette époque? C'est parce que, au moment donné, quand la guerre a éclaté...
Alexandre Tronner, décorateur.
Nous, on savait qu'on ne peut pas faire des films d'actualité, en tout cas dans le cadre qu'on nous a proposé. C'est comme ça qu'on est retourné au Moyen-Âge, ou dans les films de style. Parce que la présence était exclue, dans le sens que dès que vous faites quelque chose, il y a un téléphone, il y a une dénonciation. En fin de compte, vous êtes dans une psychose continue de quoi vous ne pouvez pas sortir.
Oh, ma montre! On m'a volé ma montre! Ma montre en or! Mais c'est elle? Sûrement oui, c'est vous, j'en suis certain! Un voleur! Un voleur!
Mais laissez-moi, c'est pas passé, vous êtes fou!
Et elle met sur le marché! Un voleur! Palouf! Sergent Ville! Quelqu'un!
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe?
Il paraît que monsieur avait une montre en or, maintenant il n'en a plus, il dit que c'est de ma faute. Pourquoi? Mystère!
Mystère, oui. Et naturellement, vous êtes innocente.
Comme l'agneau!
Et vous, monsieur, vous êtes certain de ce que vous avancez?
Sûr et certain? Arrêtez-la!
Et puisque je vous dis que ce n'est pas moi!
Oh, dis ça! Est-ce qu'il y a des témoins? Moi! Moi, je suis témoin. Qu'est-ce que vous avez vu?
Tout. J'ai tout vu.
Alors, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant?
Mais rien, je ne dis plus rien. Excusez-moi, tout le monde peut faire une erreur.
Une erreur peut-être, mais pas une erreur judiciaire. Alors je peux m'en aller?
Ben oui, vous êtes libre.
Tant mieux, parce que moi j'adore ça, la liberté.
Après tout cela, on voit quelle folie c'était de la part de Carnet que d'entreprendre à ce moment-là le film le plus ambitieux de sa carrière, la production la plus prestigieuse de toute l'occupation. Les Enfants du Paradis, ce sera 3h15 de projection, et Vichy avait interdit la production de films supérieurs à 2750 mètres, les Enfants du Paradis en feront 5000, avec 1800 figurants. Les Enfants du Paradis ont bien représenté à l'époque le luxe dans la pénurie. Tout commence donc en janvier 1943, au cours d'une conversation à Nice entre Jean-Louis Barrault, qui sera l'un des principaux interprètes du film dans le rôle de Baptiste de Bureau, Marcel Carnet, et Jacques Prévert, scénariste dialoguiste. C'est Barrault qui apporte la première idée, un film sur... le mime illustre de Bureau. Entre cette conversation de janvier 1943 et les premières projections du film, projection de gala au Palais de Chaillot et première publique, en mars 1945, Il se sera écoulé 2 ans et 2 mois, sur lesquels le tournage, à lui seul, aura représenté 18 mois. Au départ, le film devait être une coproduction franco-italienne. André Polvé, qui avait déjà produit « Les visiteurs du soir » de Carnet, et Scalera Film, qui était la partenaire, ou le partenaire italien de la Dissina, la maison de production de Polvé. Une coproduction qui devait être tournée entièrement à Nice, au studio de la Victorine, dont Polvé était copropriétaire. On peut souligner aussi qu'il a été, en somme, un peu en avance dans l'histoire de la production de cinéma en France. 2 films pour en faire un, 3h15 de projection, rien d'étonnant à ce que le producteur français, André Polvé et la Dissina, donc, se soit adressé à un autre producteur, qui était une maison italienne, Scalera, ce qui a donc permis la réalisation de l'une des premières, et vraisemblablement de la première, coproduction franco-italienne. Et c'est donc à Nice qu'on construit un ensemble de décors extrêmement important, représentant entre autres le boulevard du Temple, construit sur l'emplacement du château blanc des visiteurs du soir, 1 an plus tôt, un intérieur de théâtre, des bains turcs, etc. Ces décors impressionnent évidemment la presse de l'époque. Et dans un vieux numéro de Ciné Miroir, on peut lire ceci. Le boulevard fut construit en plein air. 35 tonnes d'échafaudage apportées, non sans mal en raison de l'époque troublée et des restrictions de Paris, fournirent l'ossature de plus de 50 façades, dont le revêtement ne nécessitera pas moins de 350 tonnes de plâtre. Pour équiper 300 fenêtres, on trouva, avec les difficultés qu'on imagine, 500 mètres carrés de vitres.
Enchaîne, Nathalie.
Jolot, vous désirez.
Régisseur,
n'oubliez pas, tableau des amendes, c'est Raphaël Barigny, 2 francs, est entré en scène en état d'ivresse et en conférant des menaces. Ça y est, ça recommence. Écoutez, mais qu'est-ce qu'ils font dans le corps aujourd'hui?
Ils sentent qu'il y a de l'orage dans l'air.
Vous n'imaginez pas, jeune homme, mon théâtre est ravagé par la haine, par la jalousie. Nous jouons sur un volcan. Ce n'est plus de la pantomime, c'est de la vendetta, de la corrida. Ils se haïssent, les 2 bureaux et les Barigny. C'est pire que les Horaces et les Curias, pire que les...
Les Montaigu et les Capulet.
Capulet connaît pas.
Là, c'est dans Shakespeare, Roméo.
Roméo connaît pas.
Bien peu de gens, hélas, connaissent et apprécient Shakespeare.
Et vous? Qui vous connaît? Qui vous apprécie? Mais qu'est-ce que vous faites là d'abord? Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait 1 heure que je vous le demande.
Je voudrais jouer la comédie.
La comédie. Mais mon pauvre ami, vous êtes trompé de théâtre. Ici, on ne joue pas. On n'a pas le droit de jouer la comédie. Nous devons entrer en scène en marchant sur les mains.
Oh, mais ça, je saurais le faire.
Sur les mains. Et pourquoi? Parce qu'on nous brime. Et pourquoi? Parce qu'on nous craint. Ils savent que si on jouait la comédie ici, ils n'auraient plus qu'à mettre la clé sous la porte. Les autres, les beaux, les grands, les nobles théâtres. Chez eux, le public s'ennuie à crever. Ils endorment leur public avec leurs pièces de musée, leurs tragédies antiquaires et leurs malheureuses momies en péplum. C'est gosiques sans bouger. Tandis qu'ici, au funambule, c'est vivant, ça saute, ça remue. La féerie, quoi. Apparition, disparition. Exactement comme dans la vie. Et puis, bam, la savate. Bam, le bâton. Comme dans la vie. Et quel public? Il est pauvre, bien sûr. Mais il est en or, mon public. Tenez, regardez-les là-haut. Au paradis. Au paradis.
On savait que ça passe à Paris, à une certaine époque, bon, on définit l'époque, et qu'est-ce qui est intéressant? Il y a une rue où il y a tous les théâtres, le thème du film, qu'il y a un théâtre officiel où les acteurs ont le droit de parler, il y a un autre théâtre officiel ou semi-officiel où les acteurs n'ont pas le droit de parler, qui est le théâtre de mime. Ils n'ont pas le droit adresser la parole au public où ils ne doivent pas. Alors, tout le thème du film, c'était ça. C'était un mime, et l'autre côté, un acteur, qui est un acteur qui parle beaucoup.
Et une fois donc que le style et que l'ambiance est fixée, vous attaquez à la description de telle et telle scène
ou Non, ce n'est pas les scènes. C'est le décor dans lequel les scènes vont jouer. Si vous avez une chambre, vous dessinez la chambre, vous dessinez pas une scène. Une scène, ça veut dire un angle, un certain mouvement au cinéma. Ça, c'est, pour moi, c'est secondaire.
Depuis les débuts de l'histoire du cinéma, on a utilisé le décor parce que l'on pouvait y faire certaines choses qui auraient été impossibles dans la réalité. Il nous arrive aussi de transformer la nature, d'ajouter une branche. C'est encore une création de décorateur. On essaie simplement de suggérer des choses. C'est le trompe-esprit. Ça va plus loin que l'œil quand c'est bien fait. Quand c'est mauvais, ça ne va même pas jusqu'à l'œil.
Pour le boulevard du crime, est-ce que vous aviez triché ?
Ah mais c'est entièrement perspective, c'était entièrement construit en perspective.
C'est-à-dire
le boulevard qui devait avoir, disons, en réalité, une profondeur de 400 mètres, était construit sur un terrain de 70 mètres de longueur.
Et là donc on procède par une perspective, vous aviez surélevé le terrain, vous aviez...
Oui, il y a différentes choses, vous savez, on surélève le terrain... On établit après les règles de perspective, de règlement de l'objectif. Il ne faut pas oublier que nous voyons à travers l'objectif, nous ne voyons pas avec nos yeux. Ça veut dire la vision de l'objectif du caméra de prise de vue, c'est une vision beaucoup plus limitée que l'œil. Il représente à peu près 50 degrés, par contre l'œil voit à peu près 160 degrés.
Plus on arrive à éliminer et contrôler ce qu'on fait, plus on arrive à le former. J'adore travailler en extérieur, mais modifiant le paysage et amenant des éléments. Il faut raconter une histoire sur l'écran, et cette histoire, on la compose. Maintenant, sans parler de cinéma vérité, le cinéma pris sur le vif, c'est autre chose et ça se discute. Nous reviendrons au décor construit, parce que ça mène l'imagination plus loin que la réalité.
Qu'est-ce que c'est que ça, le réalisme au cinéma ? Que le public qui regarde le film y croit, que ça ne le dérange pas, qu'il admette que c'était comme ça, que la porte de quand un acteur sortait était comme ça.
Au fond, c'est de l'illusion, finalement, vous êtes beaucoup plus Méliès que Lumière.
Mais
enfin,
évidemment.
Si on donne ces deux tendances
lumière,
au cinéma.
Lumière, la photographie, et Méliès, c'est l'imagination. Moi, je me considère comme un peintre. Je suis venu comme peintre à Paris et j'ai commencé à travailler au cinéma par un hasard. La peinture, c'est l'imagination. C'est l'imagination, c'est le milieu, mais la peinture, pour moi, c'est la chose la plus importante. D'ailleurs, c'est très simple. Tous mes rendus, tous mes dessins sont en couleur. Même à l'époque quand on faisait des films en noir et blanc, ils sont tous en couleur. Où la couleur commence, pourquoi on ne peint pas les décors en noir et blanc quand on tournait en noir et blanc. Parce que ça donnait une vitalité, ça donnait un ensemble. Vous comprenez, si on suit cette logique, il fallait maquiller les acteurs en noir et blanc. Quand même, qu'est-ce qui est important au cinéma ? Quand même, c'est les acteurs, c'est les visages, c'est l'expression. Alors, il faut partir de ça. Il faut rendre ça avec le maximum de richesse. Le fond doit simplement expliquer la situation au spectateur. Moi, je ne crois pas tellement dans les choses rationnelles. Ça veut dire se limiter en disant qu'on va faire un film telle et telle façon. Il faut faire un film, il faut avoir une bonne histoire, et après trouver l'astuce, comment est-ce qu'on le fait. Et cette astuce, c'est justement le travail des techniciennes.
Le cinéma nécessite beaucoup d'argent et c'est lui le facteur décisif. On ne tournait pas en décor par désir, c'était toujours pour des raisons économiques. Pourquoi utilisait-on le studio ? Pourquoi y retourne-t-on ? C'est parce qu'on peut le contrôler. En plein air, il y a beaucoup d'inconnus. La variation du temps, les mouvements du soleil, la longueur des scènes. C'est donc une question de choix soigneusement élaboré car on lâche difficilement l'argent tout en espérant toujours gagner plus. Je pense que l'environnement appelé décor est représenté par tout ce qui entoure les acteurs. Visuellement, tout ce qui est inutile gêne. Tout n'est qu'un choix d'argent.
Le tournage commence, à Nice donc, le 16 août, mais est interrompu peu après, sur ordre du ministère de l'Information, qui, averti d'un débarquement allié à Gênes, je dis bien Gênes, exigeait le retour immédiat de toute l'équipe à Paris. Puis les Anglais débarquent effectivement en Calabre, le 8 septembre, et le même jour, les Américains en campagne. Le coproducteur italien retire ses billes, Et en France, Paul V se voit interdit par les Allemands. C'est la société Pathé qui reprend la production. Pourquoi l'interdiction de Paul V? Dans ses mémoires, Carnet répond que les Allemands aient ordonné une enquête sur les ascendants de Paul V et qu'on ait découvert que celui-ci avait, par une arrière-grand-mère, quelques gouttes de sang juif dans les veines, suffisait.
Nous pensions donc que nous ne finirions jamais le film lorsque le comité d'organisation de l'industrie cinématographique, qui deviendra plus tard le CNC, Centre National de la Cinématographie, a contacté la société Pathé Cinéma pour qu'elle reprenne le tournage. Les tractations ont duré 2 bons mois. Finalement, le film a pu être remis en chantier. À partir de ce moment-là, il n'y a pas eu, à vrai dire, beaucoup de difficultés, hormis celles que nous avons rencontrées de nouveau à Nice. En effet, pendant que nous tournions à Paris, un cyclone a à moitié détruit les décors du boulevard du crime. Il a fallu reconstituer le décor tel qu'il était initialement.
Pendant que les intempéries détériorent le grand décor de la Victorine, Carnet, revenu malgré lui à Paris avec son équipe, reprend le 9 novembre le tournage, interrompu 2 mois, dans les studios Pathé de la rue Francoeur et de la rue Marcadet. C'est rue Francoeur qu'on a reconstruit un grand décor représentant l'intérieur d'un théâtre, dont le Petit Parisien du 27 novembre dit ceci. La rampe est faite de 25 feux de vrai gaz, et bien des salles parisiennes en viraient la machinerie. Il a coûté, ce théâtre, plus d'1 million, le prix d'un vrai théâtre avant la guerre. L'équipe regagnera Nice en février 1944. Sur les plateaux de la Victorine, comme partout ailleurs en France, les coupures de courant se multiplient et on ne tournera parfois qu'une heure par jour. Dans ses mémoires, Carnet dit, d'autre part, que d'importantes scènes de nuit avaient été prévues, grâce auxquelles l'ensemble du boulevard serait montré entièrement illuminé. Or, c'était le temps du couvre-feu et les occupants refusèrent l'autorisation d'illumination prévue. Il fallut donc tourner en studio et se contenter de 2 raccords, qui d'ailleurs prirent du temps, faute de main-d'œuvre. La pénurie en la matière s'étant encore aggravée. À partir de juin, c'est Carnet lui-même qui ralentit le rythme du tournage. Il raconte « Je n'eus plus qu'un désir, faire traîner le plus longtemps possible les travaux de finition du film, afin qu'il soit présenté comme le premier film de la paix enfin retrouvé. Dès lors, tout me sera bon pour prendre du retard, les pannes de courant, la pénurie des transports, la recherche d'effets sonores introuvables, etc. » Arrive la Libération, le film n'est pas encore tout à fait terminé, du point de vue du tournage. La fin du tournage approche, et il faut remplacer un acteur, l'acteur Robert Le Vigan.
Je peux vous citer l'épisode Le Vigan. Il devait tenir le rôle de Géricault, le marchand d'habits. Il en avait composé une silhouette assez extraordinaire. J'ai très exactement tourné 1 plan avec lui. Car quand Le Vigan réalisait que la guerre allait se terminer par la défaite de l'Allemagne, il a pris peur et s'est enfui à Sigmaringen. Il faut dire qu'il avait tenu des propos antisémites à la radio. Évidemment, il a fallu le remplacer, et ce, du jour au lendemain, ce qui n'était guère facile. J'ai d'abord pensé à Pierre Alcover, dont j'avais beaucoup aimé la création dans Drôle de drame, et j'ai fait un essai avec lui. Malheureusement, il était très malade. J'ai donc fait appel à Pierre Renoir.
C'est ça, des excuses. Alors, Scarpia, faites des excuses et enchaînons. Le public s'impatiente.
Les Varignies ne feront pas d'excuses. Les Varignies quittent les funambules et traversent le boulevard du Temple sur un pont d'or.
Ça n'est pas possible. Vous n'allez pas travailler chez Saki.
Si nous y allons, et ce pas. Et les Varignies.
C'est un coup mortel, une machination, un désastre. Régisseur, une chaise. Oh, fourberie, trahison, ils m'ont poignardé dans le dos. Quel désastre, écoutez-les, mon public.
Avancez, 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 avancez.
Quoi? Remboursez?
exactement n'importe qui. Le voilà. Laissez-moi seulement entrer dans la peau de mon personnage et vous allez voir ce dont je suis d'accord.
Comment en êtes-vous venu à travailler avec Marcel Carné?
J'ai connu un producteur qui s'appelait Lukasiewicz et qui devrait faire l'Hôtel du Nord.
Henri Rust, monteur.
Et étant donné que j'étais connu par l'Opéra des Quatre Sous et autres productions, et mon travail avec Litvak, on avait fait Tovaritch en Amérique, Carné m'a demandé pour le montage de l'Hôtel du Nord. C'est comme ça que j'ai connu Carné. Et après, j'ai fait pratiquement tous ses films. Enfin, pas tous, mais enfin un certain nombre.
Que faites-vous ici, monsieur? Et qui êtes-vous?
Vous ne trouvez pas que c'est une question saugrenue que de demander aux gens qui ils sont?
Comment?
C'est sans doute pour cela qu'ils répondent toujours à côté de la question. Oui, 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 ils vont au plus facile. Nom, prénom, qualité. Mais ce qu'ils sont réellement, réellement, hein, au fond d'eux-mêmes, ils le taisent, ils le cachent soigneusement.
Vous parlez pour vous, sans doute.
Non, pour tout le monde. Et pour vous également. J'ajoute même que je trouve votre façon d'agir fort indiscrète. Car enfin, vous ne me connaissez pas, vous vous permettez de me demander qui je suis. C'est invraisemblable.
Carné, je le connais. Et Carné, je le connaissais quand il a débuté dans ce métier.
Alexandre Tronner.
Je l'ai connu parce que moi, j'étais engagé ici, dans le studio, comme dessinateur. Et il était assistant de René Clair. Dans ce studio... Il y a des gens qui sont venus. Un jour, il y a Jacques Prévert qui est arrivé avec son frère, qui nous a montré un film. Et en bavardant, c'était le soir ici dans la cour, en bavardant, bon, on a eu sympathie. Et moi, j'ai eu une amitié avec Jacques Prévert, qui est un jeune écrivain. Et au moment donné, quand Carné a eu l'occasion de faire un film, autant que je sache, il a demandé Prévert à collaborer.
Et cette amitié a fait de vous le principal décorateur des films de Marcel
Carné.
Oui,
je suis devenu, dans Drôle de Drame, c'est moi qui ai fait les décors. J'ai fait une série de films de Carné Prévert.
Ainsi, on arrive donc à la guerre. À la guerre, vous êtes juif et les lois contre les juifs vous frappent, vous interdisent donc de travailler sur les studios. Et arrive le tournage des Enfants du Paradis.
On s'est rencontrés. Dans le midi, il y avait un lieu de rencontre, il fallait qu'on se rencontre, il y a un débâcle qui s'est passé. Et on s'est rencontrés à un moment donné, dans le midi, à Cannes, où on a vécu dans un hôtel, où on nous a connus, enfin. Jusqu'au moment qu'il y avait une offre de travail qui est venue, qui permettait d'abord, un côté, que Prévert puisse travailler, qu'il puisse faire un film, et que... Comme moi, j'étais ami, et automatiquement, on m'a proposé, à Cosma, on a proposé la musique.
Alors, bonne nuit, Frédéric. Bonne nuit aussi, madame Hermine.
Comment il s'en va, à cette heure-là?
Oui, ce sont l'habitude. Toutes les nuits dehors.
Un voleur. Un vrai chat de gouttière, monsieur Baptiste.
Silencieux, comme un chat dans la nuit. Il disparaît dans l'ombre de conduite, auprès de celle qu'il aime, sa beauté, son plaisir. Son amie seule et nue, tremblante de paix.
Oh, c'est beau, monsieur Frédéric.
Hein?
Et puis c'est un peu.
Un peu.
Oh, monsieur Frédéric, vous allez me faire dire des bêtises. Pensez de l'entrée.
Et vous?
Un grand lit, pauvre Frédéric. Perdu tout seul, la nuit dans un grand lit. Enfin, les lits sont faits pour dormir. Grand doute, n'est-ce pas, madame?
Bien sûr,
c'est pas
Frédéric. Alors, je vous laisse. Bonne nuit.
Bonne nuit,
Frédéric. La clé est dans la porte.
Oh, la clé. Je laisse toujours ma porte ouverte.
Vraiment?
Et on ne sait jamais. Une jolie femme qui part, c'est se trompe de chambre.
Une jolie femme. Vraiment, les jeunes gens d'aujourd'hui sont bien difficiles.
Ai-je dit que vous étiez laide? Madame Hermine.
Oh, monsieur Frédéric. Monsieur Frédéric.
Ayez pitié, la pauvre aveugle.
Ce qu'on peut se demander, c'est comment, dans une époque aussi troublée et aussi difficile, comme je le disais au début, il a été possible de mettre en chantier une production de cette ampleur, et ensuite de la mener à bout contre vents et marées. L'une des originalités du cinéma de Vichy a été d'avoir à travailler presque uniquement pour les Français qui avaient connu la défaite, les Français qui connaissaient l'occupation, à partir de sujets essentiellement nationaux et précisément avec des moyens réduits. Ce qui, paradoxalement, par rapport à ce que l'on pourrait croire, a stimulé la création. Ça, c'est le point de vue moral. Mais il y a inévitablement, une fois de plus, le point de vue économique à ne pas perdre de vue. Le tournage ne commençait à l'époque qu'une fois le budget bien arrêté, les fonds en caisse, le producteur ayant le capital nécessaire au film bloqué en banque à son nom sous contrôle d'un expert comptable spécial. C'était sécurisant. Et je gage qu'il y a aujourd'hui en France un certain nombre de producteurs qui ont ou auraient, s'ils le savaient, la nostalgie de ce point de vue, bien entendu, de cette époque. C'est encore Claude Tanlara qu'on ne peut pas suspecter de sympathie pour le régime de Vichy en général, et encore moins pour l'occupant nazi, qui a dit, dans un entretien avec les Cahiers de la Cinémathèque, en 1973, quelque chose qui ne me paraît guère excessif. Cette époque de l'occupation fut une époque excellente, très intéressante pour le cinéma d'expression française, et même la meilleure à mon sens. Tous les Français travaillaient en direction des Français. Il en est résulté l'apparition d'une véritable école du cinéma français. Je crois que Les Enfants du Paradis représentent particulièrement bien cette école, et le cinéma français de cette période, qui avait tout pour le tuer, et qui leur a permis non seulement de survivre, mais dans un certain sens, de s'épanouir. La grande chance de Marcel Carné, dans son malheur, a été de tomber, si l'on peut dire, car les tractations ont duré un certain temps et n'ont pas dû être toujours faciles, sur un nouveau producteur, la société Pathé, donc, qui est les reins assez solides pour assumer la remise en route et l'achèvement d'une production de cette ampleur. Là non plus, il n'y a pas de hasard. Le cinéma français, qui était contrôlé de très près par les autorités d'occupation, était, en cette année même, 1943, victime, si l'on peut dire, car en fait, cela devait renforcer sa puissance financière et consolider ses moyens de production, se trouvait aux prises à une concentration des intérêts français, des intérêts financiers, autour d'un nombre réduit de maisons de production que les Allemands rêvaient certainement de transformer en une seule grosse maison, peut-être deux, mais enfin un peu comme ils l'avaient fait en Allemagne, en rassemblant tout le cinéma nazi derrière l'UFA. Il se trouve donc que, à la fin de 1943, ne se sont trouvés, c'était les termes officiels, autorisés à produire pendant la campagne 43-44, que la Continentale, bien sûr, la firme allemande déjà citée, deux consortiums d'origine italienne, ce qui n'est pas étonnant, l'Italie étant le grand allié européen de l'Allemagne, et 11 groupes français, ce qui paraît relativement beaucoup, mais qui n'est pas comparable avec les dizaines de maisons de production qui existaient auparavant, en particulier pendant les années 30. Parmi ces 11 groupes français autorisés à poursuivre leur activité, 6 étaient dirigés par des membres du comité d'organisation de l'industrie cinématographique, le COIC, que les gens appelaient ironiquement quoique dans la profession à l'époque. Et on trouve dans ces 6 groupes le groupe Pathé de Raymond Borderie, qui était directeur de production chez Pathé. Et il est donc tout à fait logique que ce soit un groupe aussi puissant que Pathé, ça aurait pu être Gaumont. Peut-être que Gaumont a été contacté, je ne sais pas. Il faut demander à Marcel Carné. Mais il est normal que ce soit l'un des principaux de ces groupes qui ait repris la production des Enfants du Paradis.
Mais nous n'avons plus de terreau. C'est le désastre. Le désastre.
Si on essaie que Baptiste.
Baptiste. Jamais. Vous entendez?
tant que je serai vivant, mon fils indigne ne paraîtra pas, sera de même poche que son père.
Je vous assure, tout à l'heure, sur le boulevard, il a fait rire tout le monde.
Ah, vous étiez là,
on l'a dit.
Qui?
La caissière.
La caissière. Vox populi. Elle parle d'or, la caissière. Elle ne se trompe jamais. Pas un centime d'erreur. Allez me chercher, Baptiste. Je proteste, moi, je commande. Allez, mon ami, allez, allez. Les funambules menacent de faire naufrage. Les rois quittent le navire. Frappez grand. Le public est houleux. Je suis le maître à bord. Après vous. Je vais faire une annonce.
Le film sort le 22 avril, l'armistice est signé le 8 mai et la distribution est confiée à la Gaumont.
Attendez, je me demande si le film n'est pas sorti plus tôt. J'ai trouvé dans l'avant-scène cinéma, qui a consacré un très bon numéro spécial au film, des dates toutes situées au mois de mars. La projection de Gala, enfin, la première, a eu lieu le 9 mars au Palais de Chaillot. Et c'est 8 jours après, le 15 ou le 16 mars, que le film est sorti dans 2 salles, qui étaient le Madeleine Cinéma et
le Colisée.
Le Colisée, c'est ça. Bon, peu importe, le film sort au printemps en effet, et il y a eu un petit problème que Carné a eu à résoudre encore à ce moment-là. Car, comme je l'ai dit tout à l'heure, le film est constitué de 2 époques, c'est-à-dire que Les Enfants du Paradis, durant 3h15, est un ensemble, en somme, de 2 films. Et il tenait beaucoup, Carnet, à ce que les 2 époques soient projetées en continuité. Il a réussi à l'imposer, ce qui a imposé également un prix des places double pour les spectateurs.
Alors, il reste quelque chose d'assez important, c'est la participation d'Arletty au film de Carnet. Puisque Arletty, on le sait, à la fin de la guerre, avait connu quelques difficultés par ses amitiés germaniques, dirons-nous. Et Carnet a insisté et a obtenu la participation d'Arletty dans le rôle de Garance.
Oui, je pense que pour Carnet, les relations qu'Arletty pouvait avoir avec l'ennemi, ça n'est plus un secret maintenant, on le sait, elle s'en est expliquée elle-même assez longuement.
Michel Pérez.
N'avait aucune espèce d'importance. D'abord, il ne connaissait pas les amis d'Arletty, il pensait que ça ne le regardait pas. Ce qui l'intéressait, c'était l'actrice, la comédienne, la contribution qu'elle pouvait apporter à son film. On a reproché ça à Carnet, à la Libération. Carnet a eu des ennuis, non pas à cause de ses relations avec l'ennemi, parce qu'il n'en avait absolument pas, mais on lui reprochait 2 choses, je crois. On lui reprochait surtout d'avoir eu beaucoup de succès avec Les Visiteurs du Soir et d'avoir pu monter un film aussi important que Les Enfants du Paradis. Alors, il y avait une question de jalousie dans le métier, surtout. Puis on lui reprochait aussi d'avoir été l'ami d'Arletty et de l'avoir fait travailler. C'est une chose qui s'est réglée très très rapidement. Il était complètement innocenté de toute... Mais alors là, il y avait ces rapports entre le métier, entre la profession et puis la vie privée qui, dans une période aussi troublée que l'occupation, la guerre, évidemment, pouvait... alors que c'était très difficile peut-être de ne pas, de passer outre et de se carner par souci de patriotisme, c'était privé d'Arletty dans Les Enfants du Paradis, ça aurait été une catastrophe pour le cinéma mondial.
Enfin, Prévert, va. Oh, j'ai une admiration pour Jacques. C'est la pureté même pour moi. Ben, quelle est l'actrice qui n'en remercierait pas d'avoir eu des rôles pareils comme Les Visiteurs et Les Enfants? C'est pas possible, ça. Ça, c'est des gâteaux tout préparés à jouer. L'actrice n'a pas beaucoup de mérite, hein, là-dedans. C'est en or. Faut aimer les femmes pour faire des rôles pareils. Tu parles de Dèche, je suis juste.
Garance, ma tête, mon tendre oiseau du soir. Enfin, je la retrouve, la fleur de mes jours, la lumière de mes nuits, ma blonde Isolde aux cheveux noirs, ma tendre et douce fille Génie.
Quand tu auras fini, Frédéric, tu me le diras.
Oh, ingrat, tu veux faire taire la voix même de l'amour.
La voix même de l'amour.
Oui, la voix même.
Et la chanson de Garance aussi, dans Les Enfants
du
Paradis.
Ça, c'est très joli. Je l'ai très peu chantée parce qu'il y a eu un drame, je sais pas. Je ne l'ai même pas travaillée, mais c'est une chanson ravissante qui m'a été offerte par Prévert. Je suis comme je suis. Vous savez, c'est une chanson qu'on pourrait dire. n'est pas obligatoirement chantée, malgré la musique de Cosma. Elles sont 3-4 à l'avoir chantée. Elles ont bien fait. Mais c'est, à mon avis, c'est à dire. Il est plus difficile de la dire que de la chanter. C'est très beau. Je suis comme je suis. C'est un grand type, Prévert.
Je suis faite pour plaire et n'y puis rien changer. Mes lèvres sont trop rouges, mes dents trop bien rangées, mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais. À qui je plais? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi?
Cette chronique, depuis longtemps, j'avais un titre que je me répétais parfois avec tendresse dans l'attente de l'écrire. Cela devait s'appeler « La gloire de Carnet ». Certes, je n'avais pas encore vu « Les enfants du paradis ». Mon article était fait. On y parlait du petit brouillard mou de Quai des Brumes, des fleurs fanées du jour se lève, dans le fracas des fraiseuses et l'éclair de la soudure autogène sur l'acier. Un article de bonne compagnie, en somme, reposant à l'oreille et presque écœurant à force de chansons douces aux souvenirs, de sirupeuses cruautés et de réconfortants mépris. Mais, bref, mes intentions étaient pures. Mais pourquoi tarder davantage à le dire? Ces enfants du paradis sont un échec d'autant plus sensible que leur ambition et les moyens mis en œuvre pour la faire aboutir étaient importants.
Le chef-d'œuvre de Marcel Carnet, le chef-d'œuvre de Jacques Prévert. Ils sont l'un et l'autre en pleine possession de leurs moyens. Ils ont pu faire un film qui dure plus de 3 heures et peindre ainsi les caractères et les situations avec une complexité généralement réservée aux seuls romanciers. Ils ont ainsi pu se réaliser pleinement et peut-être ne dépasseront-ils jamais ce point de perfection.
Et au fond, on s'aperçoit que l'art, ce qu'on appelle l'art, c'est aisé. C'est la critique qui est difficile, parce que les artistes, il y en a plein dans le monde. Des grands artistes, dans tous les pays. Et puis des bons critiques, il y en a quelques-uns, qui sont oiseaux rares. Et au fond, puisqu'il n'y a pas de bons critiques, c'est donc que c'est difficile d'être critique. Jacques Prévert.
Deuxième partie, le spectacle de l'amour, l'amour du spectacle.
L'amour, évidemment, c'est un thème éternel dans le cinéma, c'est un thème qui est très cher à Prévert aussi.
Michel Pérez.
Qui est au centre de tous les films qu'il a écrits pour Carnet, et même qu'il a écrits ailleurs, pour d'autres réalisateurs. Et le spectacle, ça c'est tout à fait particulier, et j'irais même peut-être jusqu'à dire que c'est tout à fait nouveau à ce moment-là. Je crois que c'était surtout le cinéma américain qui traitait le phénomène du spectacle, l'amour du spectacle, à travers une certaine mythologie, à travers une certaine morale, « the show must go on », etc., le clown triste, le sacrifice de la vie privée à l'amour du métier, enfin, tous ces thèmes ont été illustrés par un grand nombre nombre de comédies, et en particulier de comédies musicales, et bien avant les années 1940. C'était déjà les thèmes essentiels des films de Busby Berkeley à la Warner dans les années 30, par exemple. Là, je crois que dans le cinéma français des années 30, qu'on connaît au fond assez mal, c'est peut-être pas une erreur très grave de dire que Les Enfants du Paradis est le premier à avoir traité le thème du spectacle, à la fois dans ce qu'il a de noble et dans ce qu'il a de plus populaire, et en montrant que ce qui est le plus populaire peut être aussi noble, quelquefois plus, que le théâtre académique consacré, la comédie française, etc.
C'est incroyable ce qui m'arrive. Questor, c'est sclaffé.
Qu'est-ce que tu as ?
Je crois que je suis jaloux. Je sais pas. J'ai jamais ressenti une chose pareille. C'est sournois, c'est désagréable. Ça vous prend au cœur, la tête veut se défendre, et hop, et il passe avec le reste. Tu entends, Guérance ? Là, depuis tout à l'heure, à cause de toi, à cause de Baptiste, je suis devenu jaloux. Mais jaloux, moi. Alors d'un seul coup, les regrets, cet homme, ce voyageur qui t'a emmené, moi qui t'ai laissé partir. Et avec ça, pour arranger les choses, ce Baptiste qui joue comme un dieu. Oh, bien sûr, je ne demandais pas qu'il soit mauvais comme un cochon, mais enfin, tu comprends, s'il avait pu être.
Oui, je comprends, seulement un petit peu mauvais.
Non, mauvais, non, enfin, pas moyen, quoi. Ça m'aurait fait plaisir. Enfin, il y a encore une chance. Quand on en parle, ça s'arrête.
Tu vois, elle n'était pas si grave. Une petite crise, tu es déjà guéri.
Guéri ? Pourquoi veux-tu que je guérisse si vite ? Si ça me plaisait à moi, si ça m'était utile à moi d'être jaloux, utile et même nécessaire. Merci, Garance. Grâce à toi, grâce à vous tous, je vais enfin pouvoir jouer Othello. Je ne cherchais le personnage, mais je ne le sentais pas si c'était un étranger. Ça y est, maintenant c'est un ami, c'est un frère, ça y est, je viens. Othello, rêve de ma vie. Après toi, Desdemone, bien entendu. Je vais serrer Baptiste sur mon cœur. Tu dois bien ça. Hein?
Donc à côté de ces thèmes du spectacle, il y a le thème de l'amour. Et le thème de l'amour, c'est aussi bien la relation Frédéric-Garance, Baptiste Garance, et puis le personnage de Nathalie, l'espèce de femme constante qui traverse elle tout le film et qui à la fin se demande au fond qu'est-ce qui me reste à moi pour vivre. Et alors ce thème de l'amour, est-ce que c'est un thème classique chez Prévert ou est-ce qu'il renouvelle quelque chose par rapport au film précédent ?
Je crois que c'est un thème classique chez Prévert, absolument. Ça renouvelle pas tout à fait les thèmes des films précédents, mais ça les approfondit, ça les rend plus subtils. Je crois que c'est un des rares films de Prévert où il n'y a pas de manichéisme absolu à propos. Dans Le Quai des Brumes, dans Le Jour se lève, vous avez d'un côté les amants qui s'aiment, et de l'autre des personnages très noirs qui sont ceux qui ne sont pas aimés ou qui voudraient l'être mais qui ne peuvent pas, qui ne savent pas, soit parce que leur apparence physique leur interdit, comme Michel Simon dans Quai des Brumes, soit parce que ils ont un esprit tordu qui fait qu'ils demandent trop à la vie et ils imaginent que pour obtenir ce qu'ils veulent, il faut en passer par des tractations insensées, des mauvais coups, etc. C'est Jules Berry dans Le Jour se lève. Et ces personnages, il y a le blanc et le noir, les anges et les démons. Dans Les Visiteurs du soir, là, c'est éclatant. Vous avez le diable, carrément, les créatures du diable, et puis les pauvres malheureux.
Oui, mais dès Les Visiteurs du soir, le diable se rebiffe, en quelque sorte. Le diable est plein de fentes. Enfin,
oui,
de
ce sont les créatures du diable aussi qui se rebiffent, à l'incunie en particulier. La femme étant toujours tout de même un personnage assez... pas très positif. Enfin, Jules Berry, dans ce rôle du diable, dit « J'ai toujours une certaine préférence pour les filles, parce que les garçons sont rebelles, etc. » Effectivement, à l'incunie, va essayer de vivre une histoire d'amour sur la terre, sans tenir compte des impératifs de l'enfer. Dans Les Enfants du Paradis, je crois qu'il y a une certaine complexité qui arrive pour la première fois dans le scénario de Prévert. Il n'y a pas de personnage entièrement noir. Vous avez Lassner. Lassner et le comte de Montreuil, qui sont, enfin, tous tournent autour de Garance. Ce sont tous des amants ou des amoureux de Garance. Et certains sont extrêmement ambigus. Lassner, en particulier, la figure de Lassner, dont on sait historiquement qu'il était homosexuel, ça n'est pas à l'époque, en 1943-44, était évidemment impossible d'être très précis sur ce problème-là, mais je crois que Prévert a fait le maximum pour mettre le spectateur sur la piste.
En particulier Avril, qui se balade toujours avec sa petite fleur.
C'est ça. Il y a le personnage d'Avril, qui est visiblement le petit ami de Lassner, bien qu'on ne nous le dise pas, mais qui ne le quitte jamais, et qui est présenté sous un jour pas tellement sympathique, d'ailleurs. Il est assez lâche, assez... Enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de ressort, n'a pas beaucoup de relief.
Et même la figure classique du démon, qui sont dans quasiment tous les films de Prévert, enfin, vous parliez de Jules Berry, mais enfin, il y a beaucoup d'autres démons dans les films de Prévert. Là, le démon est un peu dédoublé, c'est-à-dire c'est à la fois le destin, c'est-à-dire la main de Lassner, à la fois Champ d'habits, qui est là, qui annonce tout le temps l'avenir en regardant dans les mains. Il n'y a pas de personnage complètement négatif. Hein, l'amour est montré sous un côté positif.
Positif, en effet, et même quand il n'est pas payé de retour. C'est le personnage de Nathalie, ça. Nathalie, qui aime de bureau, qui aime Baptiste, c'est Maria Cazares et Jean-Louis Barrault, et qui sait que même si Jean-Louis Barrault ne l'aime pas, qui sait qu'elle ne peut pas perdre confiance parce que la force de ce d'amour à elle est si grande, elle la juge si grande, qu'elle a pris tout l'amour qui peut exister dans le monde pour Baptiste, que c'est elle qui l'a et que personne d'autre, même si d'autres prétendent aimer Baptiste, ça ne peut pas être vrai. C'est elle qui est dans le vrai, c'est elle qui, même si elle souffre, a raison. Et elle a une flamme extraordinaire, je trouve. Ça en fait un personnage très, 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 très attachant, qui souffre continuellement, qui est évidemment bafoué, mais qui, en réalité, rayonne. Précisément parce qu'elle a cette force de l'amour. Alors, même si l'amour n'est pas payé de retour, c'est une force telle que ça devient très, très positif.
Marcel Herrand, qui joue Lassner, et Louis Salou, qui est le comte de Montray, son antithèse, sont froids et vibrants comme des fleurs et des mouchetés. Maria Cazares est tendre et passionnée, larmoyante et lassante comme son personnage, qui est une sorte de mante religieuse dont on se demande si le geste signifie prière ou mort.
La morale des enfants du paradis est tout de même une morale un peu ambiguë, car cette Garance qui part dans la foule et qui se noie dans le carnaval de Pierrot n'est pas l'image la plus positive qu'on pourrait souhaiter de l'amour. D'autres films de Prévert donnent des issues plus favorables.
Des issues plus favorables, oui, parce que les amants se rejoignent, mais ils se rejoignent dans la mort, généralement, où ils sont séparés. À la fin du jour se lève, le héros meurt, à la fin du Quai des Brumes, même chose. Les visiteurs du soir, c'est tout de même plus positif, puisqu'il y a ce cœur qui bat, qui bat, qui battra toujours, éternellement.
Champ d'habits, mimé à la perfection par Monsieur Jean-Louis Barrault, et l'auberge des adrets par Monsieur Pierre Brasseur, et pour finir, un homme qui se perd dans une foule. Mais cette dernière image évoque malheureusement, mieux que ne pourrait le faire aucun commentaire, l'aventure de Monsieur Marcel Carnet. De son plein gré, il a mis entre son art et lui trop de gestes et trop de gens.
Tout l'art de Carnet est dans la mesure de l'équilibre. Sa technique est si parfaite qu'on l'oublie. Sûr de sa maîtrise, il attaque des épisodes qui pourraient frôler l'outrance ou le mauvais goût. Un enfant costumé en hussard dont la présence peut empêcher son père d'abandonner son foyer, l'inventeur du personnage de Pierrot, submergé comme le héros de la foule par la marée hilare de ses semblables, voilà des sujets dangereux. On imagine ce qu'en aurait fait la belle Ganse de la meilleure époque. Carnet, par sa mesure, en a fait de l'art, du très grand art. La finale des Enfants du Paradis est comme celle du Jour se lève, un morceau d'anthologie.
Alors, une chose un peu difficile, c'est toujours de répartir le rôle entre Prévert et Carnet. Il est certain qu'ils forment un tandem. Ils forment un tandem, alors, Tronner nous disait qu'ils allaient jusqu'à une préparation très poussée du film avant le tournage, et que Carnet n'était pas tellement inclus dans cette préparation-là, c'est-à-dire qu'il lui donnait des documents quasiment définitifs, avec des recherches de décors, de mouvements, de dialogues, et que Carnet arrivait à ce moment-là et tournait. Ceci dit, il reste tout de même l'image, et tout le génie des Enfants du Paradis ne tient pas seulement au génie de Prévert.
Non, sûrement pas. D'ailleurs, c'est pas tout à fait exact. Enfin, Carnet dit qu'il préparait lui-même les décors, etc., qu'il faisait lui-même beaucoup de photographies. C'est ce qu'il a fait pour Quai des Brumes, en particulier, est allé au Havre, photographier, etc. Il avait déjà en tête une idée assez précise de la composition de l'image du décor dans lequel le film se passerait. Je crois qu'il était vraiment maître de l'image. Bien entendu, il faut pas nier l'importance du rôle du décorateur et ni l'importance du scénariste, mais je pense que il y avait c'était pas un simple illustrateur, c'était pas quelqu'un qui en apportait la besogne toute mâchée et puis qui se contentait de dire moteur sur le plateau et de diriger les comédiens. À la rigueur, non, je crois que c'était beaucoup plus que ça. Il y a une parenté, il y a une dans le style d'image des films de Carnet. C'est peut-être plus tout à fait vrai après 1946, après Les Portes de la Nuit. Mais enfin, je crois que la manière de faire dire les textes, c'est tout de même pas Prévert qui dirigeait les comédiens, n'est-ce pas? Bon, il y avait des comédiens extraordinaires qui étaient peut-être capables de se diriger tout seuls, c'est sûr. Mais je crois que l'art de la mise en scène, c'est à au moins 70%, peut-être plus, un art de la direction des comédiens. Donc ça, c'est pas du tout négligeable.
Le metteur en scène est servi par des interprètes admirables, pour lesquels Prévert a visiblement écrit tout exprès les rôles du film. Arletty aura fait ses adieux au public avec la meilleure création de sa carrière. Pierre Brasseur atteint le sommet de son art dans le rôle d'un acteur pour qui l'on écrivit désordre et génie. Si son Frédéric Lemaître n'était pas un personnage historique, il resterait comme un type. Jean-Louis Barrault ne fut pas toujours au cinéma un acteur de premier plan, parce que ses meilleurs dons sont ceux d'un mime. Il peut les employer ici, et il est étonnant. Quand l'acteur redevient l'homme, on le trouve plus humain, parce qu'on sait qu'il est Pierrot. La marque de ce film est donc peut-être qu'on y crée la vie par l'art, et non l'art par la vie. Les trois coups et le lever de rideau qui l'ouvre nous avertissent que nous pénétrons dans le domaine du costume et du phare. Si les personnages descendent dans leur loge les cinq marches qui séparent la scène de la salle, ils ne cessent pas pour autant d'être des artistes. Leur intelligence, qui nous éblouit, est peut-être ce qui nous empêche de sentir jamais la tiédeur de la présence humaine.
Arthur Oeret, avec vous, nous allons voir une séquence des Enfants du Paradis, qui est la première séquence de pantomime de Jean-Louis Barrault, séquence où Arletty joue le rôle d'une statue, rôle muet s'il en est. Et vous avez choisi cette séquence parce que vous vouliez commenter la musique de ce film.
Il est incontestable que la musique avait un rôle secondaire et en même temps important parce qu'il permettait justement de lier certaines scènes qui, à l'écran, pourraient paraître un petit peu disparates. C'était évidemment un rôle secondaire, mais c'était quand même un rôle relativement important. Et c'est là qu'on pouvait mesurer la qualité du compositeur, parce que ces liaisons devaient être suffisamment souples pour caractériser la scène précédente et annoncer la scène suivante. C'est donc là le métier du compositeur de film, qui devait montrer beaucoup de tact et d'invention, avec des procédés toujours extrêmement simples, parce que la musique ne doit pas s'imposer à l'écran. On peut dire qu'une musique d'écran est bonne lorsque on l'oublie, lorsqu'elle passe presque inaperçue. Mais tout en passant inaperçue, elle réalise d'une façon secrète cette liaison qui est, je crois, très utile au cinéma.
Et vos nuits.
Vous trompez, Georges, comme d'habitude. Je n'ai jamais adressé la parole à cette jeune femme.
Vraiment, Édouard, mais c'est inouï.
Peut-être, mais c'est l'absolue vérité. Je n'ai pas osé.
Allez, Baptiste !
C'était tout de même une gageure de centrer la première partie sur un spectacle de pantomime.
Oui, c'est même très curieux parce qu'on a toujours eu tendance à dire que Prévert avait le rôle principal dans la collaboration avec Carnet et que c'était le mot qui était le plus important dans les films de Carnet. Or là, Les Enfants du Paradis apportent tout de même un démenti puisqu'il y a des scènes très importantes. Je ne sais pas, je ne les ai pas minutées, mais elles sont très très longues. Les scènes de pantomime où il n'est pas dit un mot, sauf la scène où Maria Cassarès écrit Baptiste, et elle rompt le silence de la pantomime, justement, mais le reste du temps, il y a tout de même là un rôle primordial accordé à l'image.
La musique ici est une transposition de la scène. La scène de séduction que fait le mime Jean-Louis Barrault auprès de la statue. Le violon solo a une voix particulièrement tendre sur la chanterelle et cette transposition, qui n'est pas trop rigoureuse, donne de l'ambiance à la scène. L'intrusion d'un second personnage fait varier la musique, la rend plus scandée. Ça se termine par un culbute du personnage principal, Jean-Louis Barrault. La romance reprend, le mime a un bouquet à la main, il va l'offrir à sa dulcinée. Il y a une certaine distanciation entre la scène et la musique, ce qui est logique, car le pléonasme est assez à éviter au cinéma. Il ne s'agit pas d'imiter ni de doubler les gestes, la scène, mais de suggérer, d'accompagner. Le cinéma, par essence, est discontinu, les scènes se succèdent, on passe d'un plan extérieur à un plan intérieur, tandis que la musique, elle, par essence, est continue. Les notes les unes après les autres constituent une mélodie, les accords parfois aussi s'enchaînent, et il y a une continuité indispensable, d'où une antinomie essentielle entre le cinéma et la musique. C'est pourquoi il faut toujours agir avec une certaine prudence, avec une certaine discrétion. Il ne faut pas que la musique crève l'écran. Il faut qu'elle suggère, qu'elle accompagne, qu'elle suit un trajet en somme parallèle sans jamais rencontrer réellement les faits scéniques. La musique, évidemment, est très mobile dans son expression. Et les interventions d'un second personnage déterminent immédiatement une modification dans le rythme musical. Une scène de mime, évidemment, est plus facile à musiquer parce qu'il s'agit de musique pure, une musique qui n'est pas à mixer avec des paroles. C'est une musique gestuelle
Et en ce sens, la tâche est beaucoup plus commode et l'effet produit aussi est meilleur. Il y a une sorte de difficulté à conjuguer la parole avec la musique. Ou bien la musique dérange la parole, ou la parole empêche de bien écouter la musique. On se sert bien entendu du mélange, des mixages, où la musique est le plus souvent sacrifiée. Et évident donc que cette scène de mime appelle une musique beaucoup plus indépendante et plus absolue, et notamment dans cette scène de fausse pendaison où l'apparition de la petite fille qui réclame sa corde pour sauter à la corde. La musique traduit excellemment le côté léger, frais de la scène.
L'un des préjugés les plus répandus dans l'industrie cinématographique est que la musique n'est pas faite pour être entendue. L'idéologie de ce préjugé est fondée par l'idée un peu vague selon laquelle le film, comme ensemble organisé, modifie la fonction de la musique en la subordonnant exclusivement à l'image. Elle reste par là un accessoire, une sorte d'élément de mobilier acoustique.
Baptiste !
Je trouve que ces scènes de pantomime sont très belles, elles sont en même temps très cinématographiques. Et c'est assez moderne de conception parce que je crois que Carnet aurait pu s'en remettre au montage et aux artifices du montage et jouer constamment de l'opposition ou des rapports entre la scène et le paradis, le poulailler où il y avait tout le public. Alors il le fait bien entendu, mais sans insister. Je crois qu'il y a des plans très 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 longs sur la scène qui sont presque souvent des plans fixes ou tout au moins des plans frontaux. Et ça, c'est
tout à fait des plans frontaux et la caméra entre à l'intérieur de la scène au moment où l'action va être modifiée, c'est-à-dire où on va retomber dans le film. Hein, c'est bien pour signifier, là vous voyez un spectacle de pantomime, attention, là maintenant c'est le film, regardez, on fait un close-up sur un visage, on fait sur un visage qui tourne, etc.
Mais ça, c'est une conception très moderne du cinéma et qui s'est imposée une trentaine d'années plus tard seulement. Mais je crois qu'il faudra attendre Le Carrosse d'or de Renoir pour retrouver cette importance accordée à la pantomime, accordée au spectacle, à la représentation de l'art du spectacle dans le film. Mais Les Enfants du Paradis est, je crois, là, le premier film qui accorde toute cette importance, cette représentation à l'intérieur du film. Et c'est vraiment très, très maîtrisé. Et je crois que ça peut, là, justement, apporter un démenti à tous ceux qui pensent que l'art de Carnet n'est au fond que celui d'un illustrateur, celui de quelqu'un qui n'était rien sans le scénario qu'on lui apportait.
De l'art du montage, Henri Rust, monteur des Enfants du Paradis.
En 1943, en 1944, quels étaient les problèmes spécifiques du montage ?
Les problèmes spécifiques du montage étaient de rendre ouvert à une masse de public une œuvre où la conception artistique avait une grande valeur. Savez-vous par exemple ce que c'est qu'un film après tournage ? C'est des milliers de bouts d'images et des milliers de morceaux de son. Un puzzle dont les morceaux ne collent pas toujours et dont il faut faire un spectacle. Un spectacle pour le monde entier. Pour des académiciens, des peintres, des commis-voyageurs, des serveuses, des soudeurs, des cocottes, des agriculteurs. Une création ambiguë, si vous voulez. En plus, le meilleur montage est le montage qui se voit le moins. Et l'art, c'est l'ouverture humaine aux nuances. Je dirais presque qu'il n'y a plus de nuances, si je m'exprime dans un langage qui est un langage d'avenir. Il y a une compréhension plus rapide, et ça c'est une évolution qui fait que le vrai cinéma, comme on le concevait dans le temps, n'existe plus dans cette forme.
Vous parlez de milliers de bouts de bande. Qu'est-ce que vous cherchez dans ces images-là? Qu'est-ce que vous regardez en priorité?
On regarde d'abord, naturellement, le scénario. Il n'y a pas de doute, il y a une histoire à raconter. Mais le problème vient au moment qu'il y a différentes formes de raconter l'histoire. Si on ne colle pas les bouts, et ben ce n'est pas toujours possible de coller des bouts, parce que tout à l'heure je vous ai dit que c'est un puzzle dont les morceaux ne collent pas toujours. Et ça, c'est le travail du monteur, de trouver. Il y a souvent 17 prises. Il y a un regard qui est bon dans la 16e prise. À ce moment-là, il faut éliminer les 15 autres prises et chercher le morceau qui permet de montrer ce bon morceau dans la 16e prise. C'est donc un travail de recherche.
Mais alors, est-ce que vous devez plutôt établir des ruptures ou établir des continuités dans le film?
Non. Et comme je le disais tout à l'heure, le meilleur montage est celui qui se voit le moins. C'est-à-dire, il y a donc une continuité absolue. Le public d'aujourd'hui supporte le manque de continuité. On voit quelqu'un qui se lève d'une chaise et au même moment, il sort de la porte d'entrée. Il y a donc un passage qu'on a oublié. Ça, je l'approuve, c'est tout à fait bien, parce que sinon, c'est interminable. Il y a des passages qui sont inutiles. Mais la continuité dans la pensée est absolument indispensable. L'image est pour moi le principal. L'image est le cinéma. Le cinéma est image. C'est un ballet, ce n'est pas un roman, ni une comédie. Le meilleur film pourrait se passer de dialogue.
Aujourd'hui, on a le travelling dans l'image. Le travelling, ça a diminué considérablement le travail du monteur. Est-ce que vous pensez que c'est une perte?
Oui, dans un sens, c'est une perte. Parce que le zoom, qui remplace un tout petit peu le travelling dans beaucoup de plans, fait quand même qu'une certaine valeur artistique est perdue par ce rapprochement rapide du sujet. Je ne trouve pas que l'avance de la technique sert toujours la pensée de l'auteur.
Godard disait que le cinéma, c'était la lutte contre le temps.
Oui, bien sûr, le rythme du film, c'est absolument une question de montage. Et je parle du rythme du film, mais il y a aussi le rythme des séquences. Il y a dans le même film des séquences rapides et des séquences qui demandent une certaine sorte d'éternisation. Ce travail-là est une question de goût, une question de musicalité. Et c'est pour ça que je vous dis que la musicalité du chef monteur est absolument indispensable. Je veux même dire qu'un chef monteur qui n'est pas musicien ou qui ne comprend pas bien la musique, qui n'a pas au moins étudié sommairement, n'est pas un bon monteur. C'est un élément principal pour un chef monteur.
Un personnage essentiel dans tout le film, c'est Paris.
Oui, absolument. C'est d'ailleurs... Carnet a toujours été très très fasciné par Paris dès ses débuts, puisqu'il a commencé par le journal Eldorado du dimanche, et puis par Génie, où il était le premier à avoir filmé des scènes dans des décors naturels. Ça se faisait très très peu dans les années 30, on tournait en studio. Et là, dans Les Enfants du Paradis, Paris est un Paris de studio. C'est vraiment du cinéma, l'artifice est évident. Et je crois que c'est une manière d'inclure Paris dans ce spectacle dont on parlait tout à l'heure. Ça va continuer ensuite, après Les Enfants du Paradis. Les Portes de la Nuit, on sait quels sont tous les ennuis que Carnet a pu avoir avec Marlène Dietrich et Jean Gabin, qui devaient jouer les rôles principaux, qui ne les ont pas joués, qui ont été remplacés par Montand et Nathalie Nattier. Et excédé de tous les problèmes qu'il avait, Carnet a fini par dire, écoutez, de toute façon, les vedettes de mon film, ça n'est ni Marlène, ni Gabin, ni Montand, ni Nattier, c'est Paris. La vedette de mon film, c'est absolument Paris. Alors Paris, ça permet à la fois donc de créer toute cette poésie des petites rues, des quartiers populaires, etc. Et puis aussi, ça permet de faire sortir toutes sortes de personnages de l'ombre, des personnages secondaires, qui sont là, franchement, la spécialité de Prévert. Il a déjà génie le premier film dont Prévert a fait le scénario pour Carnet. C'était une histoire tout à fait... quelconque au départ, enfin c'est une espèce de petit mélodrame sans grand intérêt, mais que Prévert a transfiguré en y ajoutant toutes sortes de personnages, des personnages qu'on rencontre dans les bistrots, etc. Et dans Les Enfants du Paradis, il y en a plein. Il y a Madame Hermine, je ne sais plus qui est jouée. Hermine qui est jouée par Jeanne Marquen, qui est la tenancière d'un hôtel, qui est tout à fait merveilleuse. Il y a surtout Géricault, joué par Pierre Renoir, qui lui préfigure très nettement le destin Jean Villard dans Les Portes de la Nuit. C'est ce personnage qui se promène de l'un à l'autre des héros, qui a des solutions pour les rêves. Il se balade avec une clé des songes, et puis il dit, voilà, je peux expliquer vos rêves, je peux lire votre avenir dans les lignes de la main, etc. C'est déjà le destin, c'est déjà le personnage qui va se faire se rencontrer. C'est pas encore tout à fait ça, l'idée n'est pas aussi précise que dans Les Portes de la Nuit, mais c'est déjà tout de même cette espèce de fil conducteur entre les différents personnages.
Il y a aussi l'aveugle mendiant joué par
Gaston Modo. Oui, Fil de Soie, en effet, qui lui alors sort tout à fait des mystères de Paris. Enfin,
c'est Eugène Sue.
Oui, il y a même la Cour des Miracles en réduction, puisque cet aveugle recouvre la vue miraculeusement quand il est entre intimes. C'est déjà la Cour des Miracles.
Hélas, nous n'avons eu qu'un Vautrin revu par Paul Féval, avec une interminable tranche de mystères de Paris, une succession de brillantes velléités. Ce n'est plus à la lecture d'un livre sacré qu'on nous convie, mais à celle d'un feuilleton du Globe, rédigé par un Alexandre Dumas Bleu Pervenche, qui jouerait avec le bossu tel que l'a condamné à jamais Monsieur Jean Delannoy. Malgré le plaisir étincelant de plusieurs passages que guide la main d'un maître, la scène de la loge, l'aube du duel, certains raccourcis du carnaval, la pantomime des Enfants du Paradis, il ne reste déjà plus dans notre mémoire que le grincement grêle des manèges de foire qui tournent à la prière des xylophones et les tableaux de famille d'un art emprunté au décrochez-moi ça de la vie et de la mort.
Comme on sait, à l'époque, le film historique avait une grande vogue. Le film a été conçu, écrit avant la fin de la guerre, avant la libération. Et c'est à ce moment-là que le film à costume a connu ses plus grands succès en France, puisque c'était une manière facile d'échapper aux problèmes contemporains qu'on ne pouvait pas traiter en raison de la censure. Et je crois que si on regarde la plupart des films historiques qui ont été faits à l'époque, on s'aperçoit qu'ils obéissaient à beaucoup de conventions du décor, de conventions de la présentation. Dans Les Enfants du Paradis, il y a une certaine modernité, je trouve. Et on pense au cinéma américain. C'est aussi beau, aussi ample, aussi grand que les grands films américains, les grandes productions que les Français pouvaient connaître avant la guerre.
C'est un film historique, soit, mais c'est un film historique qui sacrifie souvent la réalité historique banale.
Oui, enfin, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir introduit des personnages historiques sans tenir compte de données biographiques très très précises et de leur faire jouer un rôle important. Je crois que habituellement au cinéma, quand on met un personnage historique en scène, on a toujours la tentation de nous expliquer sa vie, son destin, etc., de donner des références, de donner des garanties. De Lassner, Frédéric Lemaître et De Bureau, il n'y a que très très peu de références à la réalité. On nous dit que le maître a débuté dans l'Auberge des Adrets, que De Bureau a connu son plus grand triomphe avec Champ d'Habit, etc. Ça se limite à peu près à ça. Je crois que ça, c'est assez neuf et au fond, ça correspond un peu à des expériences qui ont été faites assez récemment. Je pense par exemple à un film comme Ragtime, oui, le film de Miloš Forman, qui était tiré de Roman Doktorov, où des personnages célèbres du début du siècle, comme Freud par exemple, interviennent et joue un rôle dans un contexte romanesque et un rôle qui est purement d'invention, purement de fiction. Je crois que ça a été une audace de Prévert, ça.
Au fond, ça, la gageure de ce film, c'était d'arriver à faire jouer ensemble des personnages qui sont parfaitement historiques avec des personnages aussi imaginaires que Garance. C'est se demander comment des personnages historiques peuvent tomber amoureux avec tant de force d'une femme comme Garance et de trouver une sorte d'unité à cette action-là. Et cette unité, il me semble pour moi que c'est tout de même, on revient à l'unité qui est donnée par le spectacle, par le monde du spectacle, le monde du théâtre.
Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que le film s'organise tout de même un peu par rapport au personnage de Garance. je crois, qui est un personnage très neuf aussi. Bien sûr, il participe de la littérature romanesque, du romantique. On peut voir des références balzaciennes aux courtisanes de Balzac, bien sûr, mais je crois que c'est tout de même assez différent, en réalité. Je crois que Garance est un personnage très moderne, personnage de femme libre et solitaire, qui a la solitude de sa liberté. Elle n'est pas mélodramatique du tout. C'est en ça qu'elle est neuve, je crois. Ce n'est pas la courtisane qui est punie par le destin, parce qu'elle est punie à cause de sa liberté, non, pas du tout. Je crois que simplement, elle s'en va, elle essaie d'être toujours vivante. Enfin, il y a des citations du dialogue qui sont tout à fait remarquables à ce propos. Je suis la vérité, je suis la liberté, j'adore ça, je suis vivante, je suis plus vivante que les autres, etc. Mais en même temps, elle paie le prix de cette certitude, je crois. Mais sans qu'il y ait tout l'appareil mélodramatique habituel. Ce n'est pas Marguerite Gauthier, ça n'est pas Esther dans Splendeur et misère du courtisan. C'est une femme moderne, je pense, une femme libre qui est un peu en avance sur son temps, je crois. Et puis, il y a aussi le spectacle, bien entendu, qui, même la séquence finale, celle du carnaval, c'est aussi une ville entière qui devient une scène de théâtre. C'est ça qui est extraordinaire, puisque vous avez au début, on commence par une petite scène très humble, qui est celle des funambules. C'est même, d'abord au début, même pas la scène des funambules, mais l'estrade. L'estrade où apparaît De Bureau qui ne sait encore rien faire. Puis le funambule, puis le théâtre de Frédéric Lemaître, alors là, avec des loges splendides, où Garance retrouve Baptiste un soir. Et puis on termine sur ce boulevard du crime, qui est vraiment tout un théâtre urbain extraordinaire. Là. Et ça donne, je pense, l'unité au film, qui pourrait partir dans tous les sens, bien entendu, étant donné sa longueur, étant donné la multiplicité des personnages, et des intrigues qui pourraient se nouer, qui pourraient se développer dans tous les sens, effectivement. On pourrait suivre Lasmer, on pourrait suivre, pourquoi pas, chez Géricault, par exemple, ou Fil de Soie, ou même Avril, qui sont des personnages qui ne paraissent que très peu, mais qui sont des indications vers autre chose. En réalité, on retombe toujours sur cette immense scène qui est le film tout entier.
Les mardis du cinéma vous ont présenté « Les enfants du paradis » de Marcel Carnet. Avec Francis Courtade, Henri Rust, Arthur Oeré, Michel Pérez, Alexandre Tronner et la participation d'Arletti grâce aux archives de l'INA. Les textes de Georges Sadoul et d'Alexandre Tronner ont été lus par Frédéric Cantrel, ceux de François Chalet par Henri Courceau et ceux de Jacques Prévert, Théodore Adorno par Pascal Thoreau. C'était une émission de Pierre Courral, réalisée par Christine Berlamont. Mixage, Daniel Bizien. Bibliographie. Nous retiendrons trois monographies sur Marcel Carnet. Celle de Bernard Landry, aux éditions Jacques Vautrin, 1952. Celle de Robert Chazal, chez Segers, 1969. Et celle à paraître fin 1986, de Michel Pérez, chez Ramsès. Sur Jacques Prévert, nous nous limiterons à l'excellent premier plan numéro 14 de Bernard Charder, André Heinrich et Guy Jacob, novembre 1960. Pour les problèmes liés à l'histoire du cinéma français sous l'occupation, Georges Sadoul, Le cinéma français, Flammarion, 1962. Roger Régent, Cinéma de France, Bellefaille, 1948. Et bien sûr, Francis Courtade, Les malédictions du cinéma français. Enfin, sur Les enfants du paradis, il faut signaler l'analyse de Marcel Martin dans Images et sons, numéro 94. Et surtout, Les enfants du paradis, L'avant-scène cinéma, numéro 72-73. Ainsi que Les enfants du paradis, collection des classiques du cinéma, chez Ballant, 1974.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er octobre 1985.